C'est la BFM sur Bob FM. Bibliothèque francophone multimédia.
Et ce matin, comme une fois par mois, je reçois Elina de la BFM de Beaubreuil. Bonjour.
Bonjour Marine.
Alors, ça va bien aujourd'hui, tu es venue avec plein de livres en plus, j'ai pu voir ça.
Oui, un sac rempli de livres, rien que pour toi.
Bon, bah, ça tombe bien, puisqu'on va pouvoir découvrir tout ça. Alors, tu en as plein, parce qu'il va être question de plein de livres, mais on va surtout en aborder un qui s'appelle, c'est Mes 18 exils de Suzy Morgenstern, je le prononcerai comme ça.
Oui, voilà, moi j'ai tendance à dire Morgenstern, mais Morgenstern c'est très bien.
Je ne sais pas d'où vient cette prononciation, mais et, c'est quand même une actrice qui au début a fait... plutôt des choses pour la jeunesse. Alors là, c'est un livre plutôt pour les adultes. Mais avant, elle a fait plutôt des choses pour la jeunesse et elle est assez connue, en fait, dans le monde du livre.
C'est une autrice, pas une actrice.
J'ai dit actrice. Ouais. Ok, j'ai pensé très fort autrice.
Du coup, à la radio, ça va moins bien passer. Donc, j'ai préféré présenter une autrice. C'est donc une autrice jeunesse très connue qui a publié à peu près 150 livres pour la jeunesse, majoritairement chez l'École des loisirs. Donc certains de ces livres ont été adaptés en BD ou en film, comme je vais vous dire ça tout à l'heure. D'autres ont reçu aussi de nombreux prix, par exemple « Lettres d'amour de 0 à 10 » paru en 1996, dont on parlera en fin de chronique. Et puis beaucoup sont devenus aussi des classiques de la littérature jeunesse, donc par exemple La Sixième, paru en 85, ou La première fois que j'ai eu 16 ans, paru en 1990, ou encore plus récemment, en 2003, ça commence à dater quand même, Confession d'une grosse patate. Et puis il faut dire aussi qu'elle a un de ses premiers livres qui s'appelle C'est pas juste, qu'elle a paru en 1980, a tout de suite reçu le Grand Prix du livre pour la jeunesse, donc c'est dire si elle avait un beau parcours d'autrice jeunesse devant elle. On peut aussi citer qu'elle est chevalier des Arts et des Lettres depuis 2005 et qu'elle est chevalier de la Légion d'honneur depuis 2016. Et puis on peut aussi dire qu'elle a quand même écrit trois livres qu'elle appelle elle-même des livres vieillesse, comme elle dit. Donc il y a Jacques Addy en 2015, Fleurs tardives en 2018 et donc Mes 18 exils dont on va parler aujourd'hui. Donc ça c'est plus des livres pour un public adulte qu'elle appelle public vieillesse.
Donc il y a la jeunesse et la vieillesse, dans un sens ça va bien ensemble. Et donc là Mes 18 exils c'est plutôt une autobiographie en fait, et 18 exils pour 18 étapes.
C'est ça exactement, c'est son autobiographie en 18 étapes qu'elle a voulu appeler ses 18 exils parce que l'idée lui est venue en fait lors d'un cours sur des ateliers d'écriture. Donc elle dit « on nous a demandé de travailler sur ce mot exil, tout de suite est imposée à moi une liste de moments de ma vie qui y faisait écho. Pour moi cela signifie le changement, c'est changer de peau comme un serpent, comme un lézard, c'est muet. » Donc ça c'est ce qu'elle dit dans une interview qu'elle a donnée à Cosette en juin 2021. Et donc ces 18 exils, effectivement, ce sont des évolutions dans sa vie, des moments où elle a grandi, où elle a changé, où elle a découvert des nouvelles facettes d'elle-même, en fait, qu'elle nous présente.
Et c'est vrai qu'elle a un parcours assez original. Alors moi, j'avais pu lire déjà un petit bout de sa vie. C'était dans une collection qui s'appelle Mon écrivain préféré, où justement, j'avais pu découvrir l'autrice sans même avoir lu ses différentes...
Donc on parlait de l'autrice dans ce livre. C'était pas un livre sur elle que tu as lu.
Si, justement.
Un livre d'elle, pardon.
Non, c'était pas un livre d'elle, mais c'était un livre sur elle. Et alors, pour moi, il me semble que c'était un peu sous forme d'interview et que du coup, elle racontait aussi différentes choses de sa vie. Donc je suis bien curieuse de découvrir celui-ci. Et c'est vrai que oui, son parcours est très original et j'étais vraiment curieuse de découvrir un petit peu plus de choses.
Mais oui, c'est vrai que c'est un parcours atypique puisqu'elle est née en 1945 dans le New Jersey aux États-Unis, dans une famille juive. Elle poursuit ensuite, quand elle est jeune adulte, des études à Jérusalem où elle rencontre Jacques, qui est un mathématicien français, et elle va tomber follement amoureuse de lui. Elle va donc s'installer en France, à Nice, en 1977. Ils vont avoir deux filles et Suzy devient prof d'anglais à l'université de Nice et elle commence à écrire pour ne plus jamais s'arrêter. Malheureusement, son mari meurt en 1994. S'en suivent 10 ans de tristesse, donc qu'elle nous raconte dans l'exil 12 et dans l'exil 13. Et je vais vous lire un petit bout de l'exil 12. Être veuve, j'adorais être mariée, avoir une famille, puis se retrouver en tête à tête quand les enfants sont partis. Mon mari est mort à 54 ans, j'en avais 49. L'absence de Jacques fut un exil exécrable. Donc c'est vraiment une histoire d'amour qui marque sa vie dans le bonheur et dans le malheur. Et puis finalement, en 2004, elle rencontre Georges, avec qui elle partage sa vie depuis et dont elle nous parle dans l'exil 14 de ce livre, qui s'intitule « De souris grise à femme fatale ». Et puis elle nous raconte aussi, dans ce livre, elle nous raconte aussi sa mère, ses sœurs, avec qui elle a toujours eu des liens très forts malgré la distance, dont elle parle dans l'exil 4, être loin de ses sœurs. Elle nous parle de ses filles dans l'exil 10, être mère. Elle dit elle-même, la maternité crée un lien incomparable, c'est la plus grande aventure de ma vie. Elle nous parle aussi de ses petits-enfants, de l'amitié. Mais dans ce livre, elle aborde également des sujets plus graves comme les regrets, les erreurs, la maladie, le deuil ou la mort. Dans les exils 15, 16, 17, 18, donc il conclut le livre, même si ce livre se conclut sur des sujets graves, c'est quand même un livre avec une écriture qui est toujours abordée. Tous ces sujets sont abordés avec la légèreté qui lui est propre. Et je pense qu'il t'a donné envie de le lire aussi, de la lire quand tu étais plus jeune, parce qu'il y a cette légèreté-là qui ressort.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais commencé à lire des choses autour de sa vie. J'étais au collège, donc, quand j'ai eu ces petits livres. Et vraiment, j'étais captivée par le livre de A à Z. Et j'avais lu ça comme si juste on me parlait, quelqu'un me racontait une histoire. Et donc, je pense qu'on retrouve aussi cette écriture, du coup, dans ce livre-là.
Oui, dans Mes 18 exils, donc ce fameux livre vieillesse dont on parle, on retrouve le même type d'écriture que dans ses romans jeunesse. Quelque chose qui fait que Suzy reste nous est familière, quoi qu'on lise d'elle. Donc c'est une écriture qui est très fluide, qui est très vivante, comme tu le dis. C'est presque du langage parlé, effectivement. On a souvent l'impression de l'entendre raconter. Et ça tient à deux choses, en fait. C'est parce que, du coup, le français, c'est une langue qu'elle a appris en parlant. Puisqu'elle ne l'a pas apprise à l'école, mais en arrivant en France. Donc elle dit, elle d'elle-même, elle a 76 ans aujourd'hui, elle dit qu'elle ne la maîtrise toujours pas, et en plus elle a un accent américain encore très prononcé. Donc c'est une langue qu'elle n'a pas apprise, mais qu'elle pratique au quotidien. Et en plus, c'est ça, c'est ce deuxième point, c'est ce qui l'intéresse, ce sont les situations du quotidien, ce qui est ancré dans l'instantané. Elle dit elle-même, j'aime espionner la vie de tous les jours et essayer de construire mes histoires autour de ce monde réel. Donc ce type d'écriture retranscrit cette volonté-là, retranscrit à la fois son bagout et ce qu'elle veut nous raconter.
Et c'est intriguant, du coup, de voir d'apprendre qu'elle a un accent américain très prononcé, parce que du coup, quand on lit le livre, on n'a absolument pas cet accent si on ne l'a jamais entendu parler.
Oui, il faut écouter des interviews d'elle, elle est assez rigolote, elle a vraiment un gros accent américain et elle est assez drôle. Et sa manière de parler, quand on l'a entendu parler une fois, on l'entend dans ses livres, parce qu'elle a aussi cette fantaisie et cette légèreté. Elle est connue par exemple aussi pour toujours porter des grosses lunettes roses. Donc voilà, il y a quelque chose elle a beaucoup d'autodérision. Et d'ailleurs, dans la dédicace, dans le début du livre Mes 18 exils, on le comprend en fait tout de suite, hein, parce qu'elle dit donc pour Jacques, pour mes filles, pour mes petits-enfants, mes sœurs, mes neveux et mes nièces, pour mon gendre, pour Georges et tous mes amis chéris, et pour tous les autres qui pensent que je suis paumée, voici le texte qui vous donne raison. Donc elle donne le ton. Elle donne le ton dès le début du livre.
Et c'est vrai qu'on y est bien aussi, et manquerait peut-être plus qu'une tasse de café, du coup, pour accompagner.
Exactement. C'est un livre qu'on a l'impression que c'est une conversation autour d'un café, en fait. Elle nous invite chez elle, on s'assoit à table, et puis elle nous raconte sa vie, ses anecdotes, ses interrogations, ses réflexions. On passe comme ça d'un sujet à l'autre, comme au fil des idées, comme dans une conversation, même si le livre est construit par chronologie, hein, de son enfance jusqu'à maintenant. Dès qu'on ouvre le livre, en fait, on est dans cette ambiance-là, puisqu'on trouve des photos de famille, comme si elle les sortait là de sa boîte à souvenirs, entre une autre tasse de thé et puis deux petits gâteaux. Voilà, elle pose ses photos sur la table, elle pose ses anecdotes et on est parti avec elle pour un super moment.
C'est comme si on se baladait avec elle. Alors j'imagine qu'on a différents sujets là que tu as pu aussi aborder un petit peu plus précédemment à travers tous ces exils, et donc ils sont assez importants, je pense, aussi pour elle. Et ça revient assez régulièrement tout au long du livre. Alors on en a plusieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose autour peut-être d'être une femme qui est aussi un sujet bien présent dans le livre ?
Oui, vraiment, le livre, contrairement à ces livres jeunesse où on a vraiment des thèmes qui sont récurrents, mais qui sont quand même encore quelque chose qui s'adresse à la jeunesse, là on a vraiment ce côté où on parle d'adulte à adulte et du coup on fait un point sur sa vie. Et ce thème d'être une femme, c'est quelque chose qui va revenir tout au long des chapitres, donc tout au long des exils. Alors, on commence le livre en découvrant la vie d'une jeune fille américaine dans les années 50-60, parce qu'il faut quand même rappeler qu'elle est née donc en 1945 aux États-Unis. Elle a grandi aux États-Unis dans les années 50-60. Et l'éducation à cette époque-là, il faut recontextualiser ce qu'on est en train de lire. L'éducation pour les filles à l'époque, c'est quelque chose qui n'est pas très important, puisque le but suprême, elle le dit bien, elle le répète, c'est le mariage, c'est trouver une situation. Voilà, son but de jeune fille en naissant aux États-Unis, c'est se trouver une situation, un mari, des enfants, une jolie maison. Et elle va dérouler tout au long du livre sa manière de se positionner par rapport à l'éducation, qui pour elle est la chose la plus importante. Elle explique qu'apprendre à lire et écrire, ça ont été les choses les plus formidables de sa vie. Donc c'est vraiment ce qui va être au centre, et comment on se construit en tant que femme quand on n'a pas ce schéma-là. Comme but, même si quand même son but suprême c'est d'être amoureuse de Jacques, mais sans sacrifier son éducation. Et donc ça, cette histoire d'éducation, elle nous en parle dans l'exil 3, qui s'appelle Entrée à l'école. Elle dit « J'ai dû quitter ma maison pour un lieu hostile, l'école. Au début, je n'arrivais pas à parler, mais petit à petit, cet exil fut ma chance. » Et puis elle a l'exil numéro 7, qu'elle intitule Être un télo. Donc déjà pour elle, être un télo, c'est une forme d'exil, donc par rapport à sa famille, par rapport à ses sœurs. Je n'étais pas seulement étiquetée un télo à l'école, je l'étais aussi à la maison, où mes sœurs prenaient cela pour une tare. J'aurais préféré être sportive, populaire et normale. Voilà, donc ça resitue un peu comment elle a dû se construire à l'inverse des schémas qu'on lui proposait.
Et du coup, toujours en tant que femme, dans aussi ce rapport à l'éducation.
Toujours oui, ce rapport à l'éducation en tant que femme, comment concilier le fait de devoir mener une vie de femme classique et mener une vie de femme un petit peu hors des sentiers battus quand on est une femme écrivaine. Et puis il y a aussi donc son rapport à elle en tant que femme, et puis une réflexion sur la condition des femmes dans sa famille, dans le judaïsme, son rôle de mère et sa position de femme aussi vis-à-vis de son mari, parce qu'en fait jusqu'à sa rencontre avec Jacques, elle évolue dans un monde constitué uniquement de femmes, avec sa mère et ses sœurs, son père est très peu présent, et elle grandit dans des écoles non mixtes jusqu'au lycée également. Elle dit elle-même, dans notre cercle de sorcières, les hommes étaient considérés comme nuls et pathétiques, mais ils étaient un mal nécessaire. Donc c'était vraiment être une femme aussi quand on se construit pas par rapport à des hommes. Et puis à un moment donné, Suzy arrive au lycée et là, elle rencontre, les garçons rentrent dans sa vie. Ce qu'elle explique très bien avec beaucoup, beaucoup d'humour dans l'exil numéro 6, infiltré chez les garçons.
Déjà, j'adore ce titre.
Voilà, mais elle a toujours des titres super de chapitres. Mais là, c'est quand même très drôle, parce qu'elle dit « Les garçons n'existaient pas avant que j'entre au lycée ». Donc vraiment, comment se construire quand on est une fille et qu'on ne connaît pas les garçons. C'était un territoire hostile, étranger, inconnu. Encore plus que leurs ballons, leurs muscles et leurs moqueries, c'est l'effet qu'ils produisaient sur moi qui me gênait. Donc voilà, elle rentre dans l'univers de l'amour, de la sexualité également. C'est un épisode qu'elle raconte très très bien dans son roman pour ados, la première fois que j'ai eu 16 ans, que je voulais vous présenter parce que moi je l'aime beaucoup. Je vais vous lire le petit résumé qui introduit le livre. La première fois que j'ai eu 16 ans, j'étais moche et je n'arrêtais pas de le dire au miroir et à ma mère. Je jouais de la contrebasse, sans doute parce que je ressemblais à cet instrument. Hoc, comme on la surnomme, la narratrice de cette histoire presque vraie, est une guerrière douce, émotive, convaincue du triomphe ultime de la vérité et de la raison dans un monde violent, masculin et injuste. La première fois que j'ai eu 16 ans raconte ses combats et ses amours, l'entrée dans le jazz band du lycée, une fugue, des déboires et des merveilles, avec une émotion communicative et pudique et une inlassable passion de vivre. Pardon. Donc c'est ce livre-là, l'héroïne s'appelle Hoc, et en fait Hoc c'est le nom de jeune fille de Suzy, qui s'appelle Suzy Hoc avant de s'appeler Suzy Morgenstern, et Suzy a elle-même été contrebassiste au lycée, dans un jazz band exclusivement masculin. Donc là vraiment on est à l'intérieur de sa vie. Et dans Mes 18 exils, elle revient sur ce roman et sur sa période de lycée, et elle écrit « J'ai commencé à découvrir ces phallocrates de garçons au lycée. Quand j'ai essayé d'entrer dans le jazz band traditionnellement mâle, ils m'ont barré la route, puis ils ont fini par accepter l'inacceptable contrebassiste femelle, puisqu'il n'y avait pas d'autres candidats, mais pas à bras ouverts. Donc c'est un roman ado que je recommande vraiment parce qu'il est très drôle. On voit les premiers amours au lycée, la relation garçon-fille, du point de vue d'une fille qui découvre les garçons à ce moment-là. Donc ça lui fait vraiment beaucoup de choses positives, négatives, bizarres, bichoirs nus. Beaucoup de choses. Et en plus, c'est un film qui a été adapté en DVD, enfin en film à la base, par Lorraine Lévy avec Marie-Lou Berry. Le film s'appelle « La première fois que j'ai eu 20 ans ». Donc elle est un tout petit peu plus vieille dans le film. Mais c'est un film super drôle et le roman est génial. Donc ça, je recommande... Pour le côté qu'est-ce que c'est qu'être une fille quand on est Suzy Morgenstern aux États-Unis dans les années 60.
Ouais, c'est sûr que ça nous plonge dans quelque chose de totalement différent qu'on n'a pas spécialement l'habitude de connaître. Mais c'est pas tout, puisqu'elle a aussi un rapport à l'écriture qui est vraiment bien présent. Bah, pour cause aussi, elle écrit des livres. Mais on a ça aussi qui est abordé dans ce livre.
Oui, on a vraiment son rapport à l'écriture. Moi, j'appelle ça sa fusion avec l'écriture, puisque sa vie est vraiment entremêlée à son écriture. Et elle fait toute une réflexion tout au long des chapitres. Donc en fait, ce sont 18 chapitres qu'on appelle les 18 exils, exil 1, exil 2, exil 3, exil 4. Et quel que soit le sujet abordé dans le chapitre, dans l'exil, il y a toujours un rapport à l'écriture. Donc, parce que depuis le début des années 80, en fait, après la naissance de ses filles, donc Suzy commence à écrire vraiment des romans. Elle écrit tout de suite en français. Elle est en France depuis 10 ans. Elle se dit qu'elle va peut-être écrire en anglais parce qu'écrire en français, c'est compliqué. Et puis, en fait, elle se rend compte qu'elle va écrire tout de suite en français. Ça lui vient naturellement. Donc ça, c'est au début des années 80. Mais quand même, déjà, depuis toute petite fille, elle a toujours écrit. Elle a écrit des journaux intimes, des poèmes, des petites nouvelles. Et à l'école, on l'a surnommée même Suzy Shakespeare, ce qu'elle aimait pas trop parce que Shakespeare n'était pas très beau pour elle. Et puis, au lycée, elle est quand même rédactrice en chef du journal de son lycée. Et aux États-Unis, à l'époque, être rédactrice en chef du journal, c'est quelque chose de très prestigieux. Les journaux des lycées sont des choses très, très lues. C'était quelque chose de vraiment très important. Donc l'écriture, ça a toujours été vital pour elle. Donc pour gagner sa vie, elle a été prof d'anglais à la fac de sciences pendant très très longtemps, enfin jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, mais elle a toujours considéré que son vrai métier c'était d'être écrivaine. Et elle dit même lire et écrire, ce sont les deux techniques que j'ai apprises à l'école et c'est devenu mon exil permanent et constant à partir de mes 7 ans. Donc elle a vraiment, elle ne vit pas en fait sans l'écriture, c'est intrinsèque à elle. Et au début des années 80, mais elle a ses deux filles et ce sont ses filles qui l'inspirent et évidemment les romans pour la jeunesse, ça devient une évidence pour elle. Et elle se met à écrire des romans jeunesse. Mais vraiment, cette vie atypique est indissociable de son écriture, puisqu'elle raconte sa vie dans ses romans, comme on a pu le voir tout à l'heure. Elle écrit aussi avec les gens qui partagent sa vie, et elle s'inspire d'eux. Donc, par exemple, Premier amour, dernier amour, qui est un roman ado, raconte sa rencontre à Jérusalem avec Jacques. Et puis, elle a écrit donc un de ses livres vieillesse, Jacques a dit, où là, elle parle de son couple, de son rapport à l'amour, de son rapport à Jacques. Elle parle aussi de Georges, sa rencontre avec Georges, son deuxième amour dans Fleurs tardives, son deuxième livre vieillesse. Et puis elle a aussi ce rapport à l'écriture avec ses filles, puisqu'elle a écrit Terminal, Tout le monde descend, à quatre mains avec Alia, qui est sa première fille. La sixième, qui est peut-être son roman le plus connu, a été inspirée par sa fille Maya, qui était alors en sixième. Et puis elle est aussi inspirée par ses petits-enfants. Imami est inspirée par son petit-fils. Sa série Emma est inspirée par sa petite-fille. Voilà, elle est toujours, elle met sa vie en scène dans ses romans où elle écrit avec les gens qui vivent avec elle. Et elle se met elle-même en scène dans plusieurs de ses romans, notamment dans La petite dernière qui est parue chez Nathan en 2015, où là, elle se cache même plus derrière un personnage. Elle raconte Suzy Morgenstern, puisque si je lis la quatrième de couverture de ce roman que j'ai dans les mains, la petite Suzy grandit aux États-Unis dans une famille juive de trois enfants, de trois filles plus exactement, Sandra, Effie et elle, Suzy, la petite dernière. Et c'est son grand drame d'être la troisième. Seuls ses aînés se voient confier de véritables missions par sa mère, préparer les légumes, mettre la table. Elle n'est même pas digne d'éplucher les patates. Elle doit se contenter de faire ses devoirs. En plus, ses sœurs prennent toute la place. Sandra est la plus jolie, Effie la plus drôle. Et elle, que lui reste-t-il de spécial? Donc là, autofiction, fiction, autobiographie, on ne sait pas trop. Elle se joue des codes de l'écriture aussi. C'est un livre que je recommande aussi parce qu'il est très chouette et on apprend plein de choses sur Suzy. Donc toi, Marine, qui avait été très curieuse de la découvrir, c'est l'occasion. Et en plus, c'est un roman qui a été adapté en BD, je n'ai plus la date, en 2021, en mai 2021, par Johan Louis, et qu'on trouve aussi à la bibliothèque.
Moi, ça doit être assez curieux aussi de voir cette BD, justement, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu entre la limite de la fiction, toujours, et du personnage et de la personne.
Oui.
Et c'est vraiment, vraiment curieux. Voilà.
Ces romans transpirent sa vie, en fait. Hein. Il n'y a pas de frontière, on ne sait pas où elle est, cette frontière-là.
On a aussi l'amour, qui est du coup un autre sujet qui est quand même bien présent. Donc là, avec les deux personnes, raconter celui-là plutôt dans L'Exil 9.
Oui, alors L'Exil 9, c'est un exil qui est très chouette, qui est très important pour Suzy. Ça s'appelle « Être amoureuse », ce chapitre-là. Et elle en dit « L'amour, un exil, oui, on devient dépendante, accro, intoxiquée. La tête, le corps, envahi, occupé, exilé. Otage, esclave, même si l'euphorie s'en mêle. » Donc on est, elle revient longuement sur son histoire d'amour avec Jacques. Hein, donc on le comprend en lisant le livre. Jacques, c'est vraiment l'amour de sa vie. C'est quelque chose de très important pour elle. Et puis, bon, elle le perd. Finalement, Georges arrive dans sa vie. Elle développe une autre forme d'amour qui est aussi très beau. Elle en parle longuement à la fin du livre. Mais elle nous raconte aussi ses amours de jeune fille avec Malice. Tous les chapitres sur le lycée sont vraiment très drôles. Ses premiers prétendants sont des garçons assez rigolos. Et puis elle va raconter aussi beaucoup son amour pour ses sœurs, pour sa mère, pour ses filles, ses petits-enfants, ses amis. Enfin, elle dit elle-même tout au long du livre que c'est l'amour qui conduit sa vie depuis toujours. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour elle. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter, après mes 18 exils, j'ai voulu vous parler un petit peu plus longuement d'un autre roman jeunesse qui s'appelle « Lettres d'amour de 0 à 10 ».
Où là, on retrouve aussi du coup le thème de l'amour. Donc, bien au-delà de ce roman, c'est vraiment quelque chose qu'il apporte depuis toute sa vie et de son écriture, en fait.
Oui. Après, c'est chouette parce que en fait, elle a grandi dans beaucoup d'amour. C'est ce qu'il a porté, c'est ce qu'il a construit, et c'est ce qu'elle a aussi envie de transmettre dans ses romans à travers son écriture. Vraiment, l'amour de la vie, l'amour des autres. Donc, c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui nous est très familier. C'est parce qu'elle a envie d'aimer tous ses lecteurs et ses lectrices et d'aimer le monde entier. Donc, on a envie de l'aimer aussi elle.
Et ça fait du bien.
Donc du coup, dans Lettres d'amour de 0 à 10, bon ben déjà on a Lettres d'amour dans le titre, donc on se doute que ça va parler d'amour. C'est paru en 96 à l'École des loisirs. Et là, on suit Ernest, qui a 10 ans, qui vit depuis toujours avec sa grand-mère qui s'appelle Elle Précieuse et sa gouvernante Germaine. Alors il vit dans un univers austère, figé dans le passé, dans les souvenirs. Sa mère est morte, il ne sait pas si son père l'est aussi. Son père, c'est le fils de cette grand-mère toute triste. En tout cas, ce père a disparu. Et puis, voilà, cette vie figée, comme ça, il ne se passe rien. Un jour débarque à l'école une nouvelle élève qui s'appelle Victoire. Alors Victoire, elle a 13 frères, elle a une vie bien remplie, elle a une joie à toute épreuve. Et elle décide qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront des amoureux, tous les deux.
Ok, c'est décidé.
C'est décidé, elle l'aime et ils vont se marier dans 12 ans exactement, je crois, si je me rappelle bien de ce qui se passe dans le roman. Donc l'arrivée de Victoire et de cet amour débordant de tendresse, parce que tout au long du livre, elle lui fait des bisous, elle lui fait des câlins, elle lui dit qu'il est beau, elle lui dit qu'il est merveilleux. Donc Ernest, décolle du sol, bien sûr, hein, et cet amour-là et cette victoire va faire entrer vraiment Ernest dans la vie, la vraie vie. Lui fait découvrir la joie, sentiment inconnu jusque-là. Donc il découvre ce que c'est que de se sentir heureux. Ce qui est quand même très beau, en fait, de voir cet enfant s'ouvrir et se rendre compte qu'en fait, c'est pas si difficile que ça d'être heureux. Et puis surtout, ça lui donne le courage de percer enfin le mystère qui entoure sa naissance, puisque un jour, il fait les courses avec la famille de Victoire. Ernest tombe sur un livre dans un magasin d'un certain Gaspard Morlès, qui a le même nom de famille que lui. Donc c'est peut-être son père, en fait, il sait pas. Donc il va demander à sa grand-mère qui lui avoue que, bah non, son père n'est pas mort. Donc Ernest tombe des nues et décide d'écrire à ce père. Et puis après, donc, de nombreux rebondissements que je ne vais pas expliquer pour laisser du suspense, bien sûr, il va recevoir un colis rempli de lettres écrites par ce père. Donc ce père a écrit une lettre par jour depuis sa naissance jusqu'à ses 10 ans. Et ce sont les fameuses lettres d'amour de 0 à 10.
Ça en fait quand même pas mal.
Ça fait un énorme colis. Très, très, très gros. Et il est également question d'une la lettre de l'arrière-grand-père qui est indéchiffrable, qui contient peut-être un grand secret, qui nous questionne pendant tout le roman. Donc c'est pareil, petit suspense qui est très rigolo quand on comprend le secret. Et voilà, c'est un livre qui a reçu de nombreux prix, il le mérite parce que c'est vraiment un très très beau livre, il est très connu. On y retrouve une ribambelle de personnages formidables comme Suzy Morgenstern sait si bien les raconter, des personnages joyeux, vivants, remplis d'amour et puis amoureux des mots bien sûr avec toutes ses lettres. Et il a été adapté en plus en mars 2020 en BD chez Rue de Sèvres par Thomas Bass. Donc on a plein de formats différents pour le découvrir.
Donc on a, c'est sûr, beaucoup de BD qui ont été, enfin beaucoup de livres de Suzy Morgenstern qui ont été adaptés en BD, en film aussi. Donc ça fait quand même pas mal de choses pour la découvrir. Et justement, tous ces livres que tu as nommés sont disponibles à la BFM ?
Tout à fait. Les romans, les BD, les DVD, tout est disponible dans le réseau des BFM de Limoges. Il ne faut pas se priver. C'est des super lectures. C'est très drôle et on passe un très bon moment avec Suzy Morgenstern.
Bah ça nous fait plein de choses à lire. Merci beaucoup, Elina.
Mais merci, Marine.